Bible de l'humanité, 2, la Perse, chapitre 3, l'âme ailée. Je fais prière, honneur, hommage à la loi pure, hormage au mont d'Ormuz, d'où descendent les eaux sur la terre, hommage au bon génie et aux âmes des miens, hommage à ma propre âme. Qui songe à honorer son âme, à la parer, à l'embellir en soi, pour soi, dans le fort intérieur? Qui songe à la faire telle qu'elle soit l'image de la loi, identique à la loi, à ce point qu'elle n'obéisse qu'à ce qu'elle voulut elle-même? Cette idée grande, austère, constitue le fond de la Perse. Nul orgueil, c'est le rapport naturel de la liberté et de la justice. La Perse y va par 20 chemins divers. Elle en déduit toute une morale. Citons quelques mots au hasard. Zoroastre, dans sa sublime familiarité avec Ormuz, lui demande « Quand fleurit l'empire des démons? Quand ils prospèrent, grandissent ?» C'est quand tu fais le mal. Le mal n'est pas seulement le crime, mais tout ce qui atteint la virginale beauté de l'âme. Indécence ou licence, même au plaisir permis, paroles violentes et colériques. Chose profonde, entre les péchés graves qu'on avoue qu'avec honte, on note le péché du chagrin. S'attrister au-delà de certaines mesures, laisser tomber son âme de sa fermeté d'homme et de sa dignité, c'est faire tort à l'état de beauté souveraine où cette âme, à la fin, doit planer, vierge aux ailes d'or. Plus cette idée de l'âme est haute, plus on est étonné, scandalisé, presque indigné que cette vierge héroïque qu'on porte en soi faiblisse, s'affaisse, s'abandonne dans la maladie, dans la mort. Dès que la personnalité apparaît aussi fortement, arrive l'orage sombre des questions qui troublent le cœur. La mort, qu'est-ce? Et que signifie ce départ qu'on fait malgré soi? Est-ce un voyage? Est-ce une faute? Un péché? Une punition? Et quelle? Que souffre-t-on? La pauvre âme là-bas trouvera-t-elle ce qu'elle avait ici? De quoi se nourrir, se vêtir? Le froid surtout, le froid inquiète. Sur les hauts plateaux de la Perse, il gèle et très fort au mois d'août. Profonde est l'inquiétude, profonde la pitié, l'affliction. Dans les fêtes des morts qui viennent à la fin de l'année, pendant 10 nuits, on les entend qui se parlent entre eux, qui demandent l'habit, l'aliment, surtout le souvenir. L'un de Védique fut moins embarrassé. Ce mort qui, des loisirs de la vie pastorale, a passé aux loisirs de la vie éternelle, qu'a-t-il voulu? Faire un voyage libre, sans embarras, immense, dans le ciel, sur la terre. Il a voulu connaître les montagnes et la variété des plantes. Il a voulu connaître la profondeur des grandes ondes, mesurer les nuages et faire un tour dans le soleil. Le soleil même, père de la vie, qui engendra aussi la mesure de la vie, Yama ou la mort. À vrai dire, point de mort. Yama, c'est la loi des êtres. Rien de sombre en ceci. Le voyageur, de temps à autre, peut, du grand empire d'Yama, évoqué par les siens, venir voir sa maison. Dans la Perse, c'est tout le contraire. La mort est un mal positif. Ce n'est nullement un voyage, c'est une défaite, une déroute, la cruelle victoire d'Ahriman. Le mort est un vaincu que le traître a frappé, qu'il voudrait adjuger à la nuit, aux ténèbres, hors du règne de la lumière. Ce perfide, qui hait la vie et le travail, inventa la paresse, le sommeil, l'hiver et la mort. Mais on ne lui cédera pas, on ne se tient pas pour battu. L'âme humaine, au contraire, sous la morsure de la douleur, va grandir, créer et s'étendre dans un second royaume de lumière outre-tombe, doubler l'empire d'Ormuz. Voilà ta victoire, ô maudit! Quel mot le plus souvent dit le mourant près d'expirer? De la lumière, encore plus de lumière. Ce vœu est rempli, obéi. Qu'il serait dur, cruel, dénaturé, pour réponse à ce mot, de lui donner le cachot du sépulcre et l'horreur de la nuit. C'est tout ce qu'il craignit. La mort, pour la plupart, est moins dure en elle-même que l'exclusion de la lumière. Il ne faut pas que les vivants disent ici hypocritement, mais c'est par honneur qu'on l'enfouit, qu'on le cache dans les ténèbres. Oh non, 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 ceux qui vraiment aiment n'ont pas l'impatience d'un si cruel arrachement. L'amour ne peut croire à la mort. Longtemps, longtemps après, il a toujours des doutes. Il dit, si c'était faux. La Perse ne cache point l'être aimé et ne le bannit point du jour. Ce ne sont point les vivants qui le quittent, c'est lui qui les quittera. Que la forme s'altère et change, la famille, intrépidement, accepte la nécessité dure, tout ce qui viendra de cruel, tout, pourvu qu'on le voit encore. On le place, ce mort, par-devant le soleil, sur la pierre élevée où les bêtes ne monteront pas. Sans doute aussi son chien, son inséparable gardien, qui vivant le suivit toujours, reste près de lui et veille. Donc il peut, ce vaillant d'Ormuz, cet homme de lumière qui toujours vécut d'elle, rester devant elle à son poste, la face découverte, assuré, confiant. Deux jours, trois jours, les siens en larmes sont autour et observent, épient. Tout va conformément au rituel de la nature. Le soleil adopte le mort. De ses puissants rayons, doublés dans le miroir du marbre, il l'aspire, il l'attire, le fait monter à lui. À peine en laisse-t-il une vaine enveloppe, une ombre si légère que ses enfants, sa veuve, les cœurs les plus blessés, sont sûrs, bien sûrs, qu'il n'est plus là. Où donc est-il ? Là-haut. Le soleil but le corps, l'oiseau du ciel accueillit l'âme. L'oiseau fut son ami. Toujours au labourage, il allait derrière lui en purgeant le sillon. Il suivait son troupeau, l'avertissait du temps, lui prédisait l'orage. C'est l'augure, le prophète, le conseiller de l'homme. Dans le travail long, monotone, il l'occupe de sa mobilité. Autour du travailleur fixé sur son labour, il est comme un esprit léger, un autre moi plus libre qui va, vient, vole et cause. Rien d'étonnant s'il revenait le jour de deuil auprès du mort, qu'à ce moment un rayon lumineux dora l'oiseau qui reprenait son vol, le transfigura dans le ciel, on s'écriait « l'âme a passé ». Savez-vous bien ce que c'est que la mort ? Aux survivants, c'est une éducation, une initiation forte et définitive. On reçoit là la souveraine épreuve, la solennelle empreinte que gardera la vie. À ce moment, le cœur est là, navré, sans force, sans nerf ni consistance, comme un métal passif, amolli par le feu, qu'on va graver d'un signe. Un pesant balancier tombe et frappe. La mort, ce misérable cœur est marqué pour toujours. Grande et terrible différence, si c'est la mort vaillante qui s'est empreinte en lui, lui a donné sa noble image, ou la mort des terreurs, la mort des peurs serviles, peur de la nuit, et peur du diable, et peur d'être enfoui vivant. Oh, que voilà un homme pâle et débilité au retour de telles funérailles, bien préparé à mourir lâchement, à vivre d'une vie d'esclave, heureux sujet pour tout dominateur. Les vampires, qui savent humer l'âme au moment du passage où elle est désarmée, sont au premier degré docteurs en lâcheté, préparateurs habiles pour livrer aux tyrans des générations évidées à qui l'on a volé le cœur. L'âme voyageuse de l'Indien partait légère et sans terreur, n'en laissait pas aux siens, et plus d'un curieux eût voulu partir avec elle. L'âme courageuse du Perse qui ne reculait pas, qui bravait encore Ahriman, qui, paisible devant le soleil, se confiait à la lumière, ayant toujours vécu pour elle, elle ne laissait pas, en s'en allant, au sien ce pitoyable legs de peur et de servilité. Que lui arrivait-il après? On le savait. Pendant 3 jours, gardé des bons esprits, sauvé de l'assaut des mauvais, l'âme incertaine vole autour du corps. Après la 3e nuit, elle fait son pèlerinage. Encouragée par le soleil brillant, menée par les génies au sommet du mont Alborj, elle voit devant elle le grand passage, le pont aigu de Tchinevad. Mais le chien redoutable qui garde les troupeaux du ciel ne s'oppose pas à son passage. Une figure charmante, souriante, se tient au pont, une belle fille de lumière, forte comme un corps de 15 ans, haute, excellente, ailée, pure comme ce qu'il y a de plus pur au monde. « Qui es-tu, ô beauté? Jamais je n'ai rien vu de tel. Mais, ami, je suis ta vie même, ta pure pensée, ton pur parler, ton activité pure et sainte. J'étais belle, tu me fis très belle. Voilà de quoi tant je rayonne, glorifié devant Ormuz. Il admire, ému, il chancelle, mais elle lui jette les bras autour du cou, elle l'enlève tendrement et le pose au trône d'or. Elle et lui, désormais, c'est un. Il s'est réuni à lui-même. Il a retrouvé son vrai moi, son âme, non passagère de misère et d'illusion, une belle âme immuable et vraie, libre surtout, ailée et qui nage aux rayons, qui plane d'un vol d'aigle ou perce les 3 mondes d'un vol foudroyant d'épervier. Pour être juste envers la Perse, il faut noter l'austérité sublime où se maintint chez elle cette grande conception de l'âme ailée, de l'ange. Cet ange n'a rien des mollesses, du fantasque arbitraire qui ont mêlé plus tard les âges bâtards. L'ange n'est pas ici le blond fils de la grâce, un Gabriel, un discret confident avec qui l'on s'entend, qu'on espère attendrir, et dont la spéciale indulgence peut vous dispenser d'être juste. La Vierge ailée qui est l'ange de la Perse n'est que la justice même. Elle est la loi que tu te fis, l'exacte expression de tes œuvres. Grande poésie, mais de raison profonde, et plus elle est sévère et sage, plus aussi elle est vraisemblable. Elle fut pour la vie d'ici-bas la plus noble émancipation. D'avance, on se trouva fièrement relevé, soulevé, on se sentit pousser les ailes, et tout le monde d'en bas parut comme un commencement. Des mondes à l'infini s'ouvrirent, et des percées profondes dans l'infini du ciel. Par moments, sans nul doute, on les voit, mais si vives que la paupière en baisse. L'obscurité se fait à force de lumière, et l'on reste muet, réjoui, attristé.